Moi, je m'appelle Pierre Olivier, je travaille pour Uzbek Erika. Donc, on est un média, on va dire, généraliste. On n'est pas hyper technique sur ces sujets-là. J'ai un peu flippé quand Sylvain m'a dit « Mais tu vas voir, tu vas animer un truc IA et éthique. » J'étais là genre « Waouh, IA éthique !» Genre le grand monstre froid qui organise, classifie tout versus l'éthique, le truc un peu chaleureux, etc. C'est comment on réconcilie les deux ? Et du coup, je me suis un peu penché sur le sujet pour préparer cette table ronde. Et j'étais très curieux du coup de l'animer et que vous puissiez nous donner quelques éléments qui permettent... de nous rassurer à propos de tous ces sujets-là. Moi, mon entrée, c'était la suivante, c'est mais quand on regarde un peu tout ce qui se passe sur l'IA, alors en général, hein, et l'éthique, derrière l'IA, il y a la data, il y a la tech, il y a toutes ces espèces de trucs très complexes quand on ne bosse pas dedans. Et donc, la question que je me posais, c'est mais en fait, quand on associe les deux comme ça, la question qui vient naturellement, c'est de quoi faut-il avoir peur finalement, pour l'éthique, pour notre bien-être, pour notre vivre ensemble collectif. Est-ce qu'il y a une opposition comme ça naturelle qui se crée et comment est-ce qu'on l'adresse? Et moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse là pour ouvrir un peu cette discussion, c'est qu'on réponde à trois questions un peu générales. C'est bah, du coup, comment ça marche un peu l'IA, notamment dans la production de contenu. On en entend parler uniquement quand il s'agit de deepfake ou de farm marketing assez agressive. Et on voit bien que ce sont des sujets, on le voit, c'est un enjeu sur la guerre en Ukraine, c'est un enjeu sur toutes les élections depuis 2017. Mais quand même, comment ça marche de produire des contenus? À quoi ça sert? Quelle serait la deuxième question? Du coup, une fois qu'on a compris le mécanisme, bah, qui l'utilise? Pourquoi? En vrai, enfin, je veux dire, quand on n'est plus dans le fantasme un peu, qu'on ne joue pas à se faire peur. Et puis enfin, c'est quoi le futur de ces sujets-là? Je bosse chez Uzbek Erika. Et c'est quoi l'avenir de la production automatique de contenu? Et voici, en guise d'introduction, puis je vous laisserai le soin de préciser un peu tout ce que j'ai raconté. Et donc, pour ouvrir le sujet sur comment ça marche, j'aimerais bien te proposer, Claude, d'expliquer un peu de quoi on parle quand on parle d'IA. Et d'éthique, mais d'abord, quand on parle d'IA, revenir sur cette distinction qui est un peu tarte à la crème, peut-être pour vous autres spécialistes, entre IA forte, IA faible, et comment on nourrit une IA faible, et qu'est-ce qu'on adresse quand on parle de ces sujets-là.
Chuck. Okay. Qu'est-ce que l'IA? Alors, en fait, peut-être juste comment moi je suis arrivé à l'IA, parce que je pense que ça illustre pas mal les choses. En fait, tout petit, j'ai vu 2001. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui m'a attiré dans l'IA, c'est la possibilité. Alors, quand on étudie l'humain, quand on est médecin, on découpe un être humain. Désolé, c'est pas très. Mais on voit comment ça marche, en fait. C'est un peu difficile de découper un cerveau parce qu'on voit pas comment marchent les idées. Ce que fait l'IA, ce que moi, en tout cas, me permet de faire l'IA, c'est de comprendre en fait des mécanismes de pensée humaine. En essayant, c'est pas la même façon de faire évidemment, mais en essayant de les modéliser par une machine. Et en fait, l'IA, ça a ce côté d'essayer de reproduire ce qu'un humain fait en utilisant son intelligence. Donc là, je plagie en fait l'un des pères de l'IA, mais c'est la définition de l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, c'est la science qui permet de faire à une machine ce qui demanderait à un être humain de l'intelligence. Et si vous regardez cette définition, elle ne fait jamais intervenir l'intelligence de la machine. C'est juste, on fait quelque chose, si c'est un humain qui le faisait, ce serait grâce à son intelligence. Comme écrire un texte, comme reconnaître une vache ou un chat, ça demande de l'intelligence. Quand la machine le fait, elle fait un travail où l'humain a besoin d'intelligence. Mais la machine, elle est totalement con. Totalement. On n'a absolument pas pour l'instant le moindre élément, que ce soit dans l'industrie ou dans les labos, on n'a pas d'élément d'intelligence. On arrive à prouver que la machine est intelligente. Il y a effectivement, alors vous connaissez peut-être OpenAI, GPT-3 et tout ça, donc le CTO d'OpenAI a commencé à dire peut-être que là on commence à avoir un début de conscience. Bon, il s'est fait massacrer par tout le monde, à tort, parce que poser la question, c'est pas un mal, on a le droit de poser la question. Et lui-même répond, je pense pas que non, mais ça vaudrait le coup de réfléchir. Ok, voilà. Mais en fait, il n'y a pas cette notion justement d'intelligence artificielle, c'est peut-être l'un des termes les plus stupides qu'on ait jamais utilisé pour désigner un objet. L'intelligence artificielle n'a rien d'intelligent.
Merci Claude. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce sujet sur la stupidité de l'intelligence artificielle ou la manière dont ça marche de façon générale ?
Oui, alors moi je ne viens pas du tout à la base de la tech, hein. Je viens vraiment du métier, d'une agence de contenu visuel, social media. Et en fait, on est né donc chez Creative Live vraiment d'un besoin métier de comprendre ce qui fonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas dans les vidéos et dans les contenus qu'on pouvait produire pour nos clients. Donc on s'est vraiment dit, bah en fait, on répète toujours la même chose. Il faut que tu mettes ton logo dans les 3 premières secondes. Il faut qu'il y ait un hook fort parce qu'il y a 3 secondes d'attention sur les réseaux sociaux. Donc il faut vraiment qu'il y ait un catch hyper puissant dès le départ. Sauf qu'on ne l'a jamais mesuré et qu'en fait, on ne sait jamais vraiment si ce qu'on vendait à nos clients était juste ou pas. Donc on s'est dit, OK, bah on va créer notre propre techno qui va nous permettre de faire ça. Et donc on a créé un spin-off et on s'est fait accompagner, évidemment, de doctorants, dont je ne suis pas, pour pouvoir le réaliser. Moi, le premier truc qui m'a marqué, donc quand je suis arrivée là-dedans, c'était de se dire comment on arrive à évaluer la puissance de notre techno. La seule façon de le faire, et la seule façon réellement en fait de construire et d'être certain que notre intelligence artificielle fonctionne correctement. Donc pour moi, c'est du computer vision, donc ça va être détecter une vache, un chat dans un visuel ou dans une vidéo. C'est de faire référence à de la labellisation manuelle. Pour s'évaluer, la seule référence réelle qui nous permette de savoir si on a en fait une IA qui est de bonne qualité, c'est de faire la labellisation manuelle et de comparer nos résultats automatiques versus l'humain. Ça nous permet de savoir si on a une confiance à 80%, à 90% au regard de ce qui a été créé par notre techno. Donc je me suis dit, OK, c'est déjà suffisamment rassurant de se dire qu'on a toujours un référentiel humain quelque part, de pouvoir savoir comment se considérer. Et c'est vrai que globalement, en fait, dès qu'on fait, évidemment, en fait, on évolue toujours, on reconnaît de plus en plus d'éléments créatifs dans nos visuels. Et à chaque fois, on a toujours ce même dénominateur commun que de se comparer par rapport à ce qui a été labellisé manuellement par quelqu'un. Pour vérifier si on a eu de la régression ou pas, si on a progressé, et auquel cas, où est-ce qu'on a progressé. Et donc, déjà, pour moi, c'était le premier élément extrêmement rassurant de l'IA, de se dire que, bon, voilà.
Finalement, ce n'est pas si fort que ça, quoi, en fait.
Ce n'est pas si fort que ça. Il nous faudrait juste une armée d'humains pour pouvoir réussir à sortir toute la data qu'on extrait aujourd'hui de façon automatique. Mais globalement, c'est ce que disait Claude juste avant, c'est faisable par un humain, mais c'est juste que c'est une échelle qui est tellement monstrueuse que ça nous prendrait des années et des années pour le faire.
Arnaud, Jean, Arnaud, je vous voyais hocher la tête comme ça quand parlait Marie.
Oui, parce que ça me parle d'autant plus que c'était mon sujet de thèse il y a quelques années. Donc forcément, c'est pour ça que je hochais la tête. Aujourd'hui, moi, l'intelligence... chez Scrini, on ne peut pas vraiment parler d'intelligence artificielle parce qu'on n'est pas... On est sur un système assez simple d'intelligence, mais on l'utilise pour tout à fait autre chose. On l'utilise pour optimiser nos calculs. Alors, c'est complètement caché, mais en gros, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure à l'atelier si vous êtes toujours présent. Mais en gros, on est capable de calculer des centaines de milliers de vidéos très rapidement. Mais derrière, il faut optimiser tout ça, parce qu'aujourd'hui, produire une vidéo, c'est très simple. En produire 50, c'est très simple. En produire 100 000, ça devient compliqué. C'est très consommateur de ressources. Et nous, l'intelligence, finalement, chez nous, on l'a utilisée pour optimiser ces ressources-là. Et donc, c'est complètement différent. C'est pas pour créer la data du contenu. Voilà, on est complètement sur une autre strate. Nous, on est vraiment sur l'optimisation de la production. Et ce qui nous permet aussi d'être du coup extrêmement performants. Mais oui, ça me parle beaucoup parce que je trouve que c'est un sujet passionnant et je suis complètement d'accord, il faudrait des armées de personnes pour pouvoir vérifier ce que l'intelligence artificielle produit, quoi.
Jean, une réaction après ce premier tour de thème ?
Oui, déjà souscrire à ce qui vient d'être dit globalement et en particulier Claude, quand Claude souligne que l'IA n'est pas intelligente en réalité, qu'en fait c'est peut-être une manière de souligner au contraire l'intelligence humaine et aussi de dire qu'il n'y a pas d'opposition finalement à avoir, ça a été dit par Sylvain tout à l'heure, entre IA et IH, hein, intelligence humaine, qu'elles sont évidemment aujourd'hui très complémentaires. Sur le domaine qui est le mien, l'analyse sémantique, bah, les problématiques sont un peu, enfin, elles sont pas les mêmes, mais elles sont transposables. C'est-à-dire, comment fait-on pour analyser des millions, des dizaines de millions de mots pour en extraire de l'intelligence, pour en extraire des insights. Voilà. Donc, alors, il y a des tas de techniques. Mathématiquement, on sait que ça existe depuis les années 60, même peut-être même un petit peu avant. Mais sur une des slides qui était montrée avant, en revanche, il y avait une limite de calcul. On ne pouvait pas, il y avait pas les processeurs n'étaient pas assez puissants pour le faire. Aujourd'hui, les processeurs sont suffisamment puissants et depuis 2015, il y a de nouvelles technos avec le deep learning, machine learning, deep learning, les réseaux de neurones qui ont permis et qui permettent aujourd'hui d'associer analyse sémantique du langage à cette notion un peu floue, en tout cas d'IA, telle qu'on en a parlé jusqu'à présent.
Tous les quatre, du coup, vous commencez par dire que finalement, c'est pas si puissant que ça, c'est pas si précis que ça. C'est quoi, si on devait les formaliser, les limites? On commence par les limites, comme ça, on se fait pas peur, et puis après, on pourra parler de toutes les opportunités associées. Mais c'est quoi les limites de l'IA? Claude, tu dis que finalement, elles sont un peu bêtes, finalement, qu'elles sont pas si efficaces que ça. C'est le bon mot ou...
Je dirais que la première limite, alors il y a plein de façons de le... La limite, c'est aussi l'apprentissage sur lequel en fait on va se baser. On est forcément en fait, on apprend au regard de quelque chose et d'une base sur laquelle en fait on a positionné notre modèle. Donc c'est, alors évidemment, il y a aussi d'autres façons en fait d'être auto-apprenant, etc. Il y avait le beau reportage sur AlphaGo qui montrait que justement en fait l'IA arrivait à apprendre d'elle-même. Mais aujourd'hui, nous, on n'en est pas du tout à ce niveau-là. Ça, c'est pour moi la plus grosse frustration et aussi le point aussi de vigilance premier pour mettre vraiment les pieds dans le plat au niveau de l'éthique. C'est qu'en fait, on est forcément tributaire d'un échantillon initial sur lequel en fait on va s'entraîner. Et si cet échantillon initial est biaisé, forcément, en fait, on va s'entraîner en fait autour d'un biais existant.
Et s'il est biaisé ou s'il est mal lu, parce que on a.
Ou s'il est mal lu,
moi j'ai en tête que les limites sur l'analyse de données, c'est tout ce qui va être justement les caractéristiques trop humaines, tout ce qui est le sentiment analysis ou l'ironie, quand on scrape de façon massive des données, par exemple sur les réseaux sociaux, pour essayer de reproduire des comportements, les IA ont un peu de mal à détecter.
Oui, complètement. Alors après, donc du coup, nous venant en fait de ce métier de la création de contenu, déjà on est un spin-off d'une agence de prod, donc en fait on n'est pas été sur le terrain de créer en fait de façon automatique des contenus. Nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir une techno qui appuie vraiment en fait l'intelligence humaine qu'on a par ailleurs. On a en fait des motion designers, on a des réals, etc. en interne chez nous, chez The Source, donc Creative Lift est indépendant désormais, mais voilà, on a vraiment cette fibre créative chez nous. Et l'idée, c'était d'aboutir à une sorte de framework comme on va l'avoir par exemple sur des newsletters où on va avoir des zones chaudes, des zones froides, on va savoir que tel texte fonctionne mieux que tel autre ou tel visuel fonctionne mieux que tel autre. Ça, globalement, en fait, on voulait ça pour le social media et la vidéo. Le truc, c'est que, alors aujourd'hui, on arrive quand même à avoir une certaine volumétrie et donc à avoir quand même un champ assez libre d'apprentissage de notre IA. Demain, si vous montrez jamais une plage dans l'historique publicitaire de votre compte, notre IA, elle sera jamais en mesure de dire que mettre une plage dans des visuels, ça aura un effet positif. Et donc c'est vrai que, alors aujourd'hui, nous, on va se positionner avec des learnings qui sont transversaux au niveau de l'industrie. Donc par exemple, si vous êtes dans l'industrie du sportswear, on va regarder tout ce qui se fait en fait partout pour toutes nos marques, et on va regarder en fait quels sont les leviers créatifs forts. Donc est-ce qu'il faut mettre de l'humain, est-ce qu'il faut plutôt avoir des sweatshirts qui sont roses versus des sweatshirts verts, etc., etc. Donc ça, on va être en mesure de pouvoir le dire. Mais si néanmoins vous n'avez jamais utilisé un sweat bleu en fait dans l'historique, on va avoir du mal à le sortir de façon spontanée. Donc pour moi, ça, c'est une vraie limite. Aujourd'hui, on en est encore loin, mais je pense que si tout le monde se met à utiliser ce type de techno, il va falloir qu'on arrive à ouvrir le champ à un moment donné pour qu'on arrive à avoir de nouvelles idées et pas uniformiser le contenu au global.
Oui, c'est ça, parce que c'est ça, c'est le mot uniformiser. Parce qu'on a l'impression que la data traite les choses de façon industrielle et en masse, alors qu'en fait, c'est plutôt un outil pour permettre d'hyper personnaliser les recommandations qu'on peut faire sur des sujets. Donc c'est vraiment un outil de création, quoi, de créativité. Exactement. Arnaud, Jean, vous alliez dire un truc.
Non, mais je, ce qui vient d'être dit, en fait, est effectivement assez, je dirais, assez transversal aux problématiques d'hier, parce qu'en langage, c'est pareil. Tu évoquais l'ironie. L'ironie, évidemment, est une des choses les plus difficiles à détecter. Alors aujourd'hui, justement, avec des technologies qui sont arrivées depuis 2015, on peut arriver avec des taux d'erreur significatifs quand même, de se dire que bravo, c'est finalement technique et c'est en fait pas bien du tout. Et donc on va faire digérer des millions de mots et on va déduire, la machine va déduire, donc avec ses principes de réseau de neurones, va déduire que dans 75-80% des cas, compte tenu de l'environnement lexical qu'il y a autour de elle va se dire la probabilité pour que ce soit quelque chose d'ironique est forte. Donc je dis que c'est de l'ironie. Mais elle peut effectivement se planter. Et donc, à ce moment-là, les cerveaux humains arrivent pour dire « Ah, mais non, ça va pas du tout ». Donc, il y a des exercices qui sont beaucoup plus faciles à faire grâce au réseau de neurones. Donc, tout ça pour dire que la limite, puisque c'était ta question, la limite, elle est humaine. Elle est inhumaine et elle est un peu beaucoup quand même sur le calcul, sur la puissance de calcul qui va permettre d'absorber effectivement des quantités beaucoup plus importantes de données et de traitements.
Et l'éthique là-dedans, du coup, il y a aucun sujet. Il y a pas.
Ah si, il y en a quand même un petit peu effectivement. Sur l'éthique, déjà, alors je peux parler que de ce que je connais bien, c'est les données qui nous arrivent. Nous, on produit pas de données. On utilise des données produites par des tiers pour les transformer en vidéo. Mais ces données-là, on a des grosses quantités de données qui peuvent nous arriver. Par exemple, une campagne de mailing vidéo, donc ce sont des vidéos personnalisées. Imaginons que là, on fasse une campagne de mailing comme on fait une campagne de mailing traditionnelle, sauf qu'à l'intérieur, on va mettre une vidéo pour chacun des participants ici, on aurait chacun une vidéo différente. Donc ça veut dire qu'on a des données personnelles qu'il faut gérer aussi de manière éthique. Et donc ça, c'est un vrai défi quand on a beaucoup de data à manipuler pour des acteurs comme nous, où nous, on n'a pas vocation à absorber de la data, c'est pas du tout notre métier. Il faut qu'on soit capable de garantir à nos clients et à leurs clients que derrière, on gère la data avec une vraie éthique, c'est-à-dire qu'on anonymise au maximum, qu'on crypte les choses, etc. Et puis après, derrière, qu'on les efface. Et puis après, il y a aussi une autre éthique, mais ça, c'est plus personnel. J'en parlais tout à l'heure. On utilise l'intelligence, pseudo-intelligence artificielle pour optimiser nos calculs. C'est aussi pour être économe aussi en énergie pour produire tous ces contenus. Voilà. C'est aussi une autre forme d'éthique.
Ouais, il y a deux éthiques. Il y a finalement le traitement CNIL RGPD compatible des données. Enfin, attention. Et puis il y a peut-être une deuxième forme d'éthique, c'est ces données, si elles sont si utiles, si créatives, si puissantes, c'est pourquoi on les utilise. Je pense que le deuxième aspect, il est là. Si on arrive à vous recommander de façon tellement personnalisée quelque chose que finalement ça vous traverse l'esprit et que ça s'impose comme une évidence. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un truc qui est sorti il n'y a pas longtemps, une alerte qui a été lancée par des chercheurs. Tiens, bien sûr, c'est toujours les chercheurs américains, du MIT, ils travaillaient sur le rêve et la possibilité d'influencer les rêves. Et donc, ils expliquent qu'ils travaillent sur ces sujets-là depuis 2 ans. C'est un article de l'ADN, je crois. Et que récemment, ils ont été vachement questionnés par des entreprises qui se demandent de quelle manière elles pourraient réussir à transformer ces stimuli sur lesquels ils travaillent pour influencer le rêve en message publicitaire, par exemple, pour les inciter à rêver. Alors, ils bossent pas mal avec les jeux vidéo, c'est Ubisoft qui fait pas mal de tests là-dessus. Ils font jouer les joueurs pendant 10 heures à l'un de leurs jeux, par exemple. Et juste avant de s'endormir, ils mettent des capteurs sur la tête des gens et tac, tac, ils leur proposent des petites stimulations qui leur permettent de repenser aux séquences de jeux qu'ils ont un peu aimées. Bon, c'est un exemple un peu extrême, mais je pense que ça illustre bien ce que je veux dire sur la possibilité d'être très efficace dans sa recommandation grâce à l'IA, qui est aussi l'autre versant éthique. Pas uniquement dans la gestion des données, mais dans l'utilisation et l'efficacité qu'on peut avoir de ces données-là. Claude ?
Oui, enfin, de toute façon, nous, pour l'exemple que je donne toujours, c'est que nous, on génère automatiquement des textes, et on a été sollicité pendant une période, je ne sais plus exactement quelle année, on a été sollicité toutes les semaines pour créer des faux avis, à tel point qu'on a mis sur notre site « Nous ne faisons pas de faux avis », et puis ça s'est arrêté à ce moment-là. Et depuis, c'est pas revenu, mais peut-être que la mode est passée. En tout cas, évidemment, le problème principal, c'est l'utilisation qu'on fait. On peut avoir un couteau pour couper son saucisson ou pour découper son voisin. C'est pas la même chose forcément. Sur le côté, Alors sur le côté, déjà, moi je trouve que réussir à détecter l'ironie à 75%, c'est bien mieux que sur Twitter. Donc c'est, je trouve ça plutôt impressionnant en fait, si ça marche. Et après, la limite, effectivement, c'est l'humain. Mais je reviens quand même sur ce que tu as dit, la limite, c'est la puissance de calcul. Et on l'a quand même bien vu avec le passage de GPT-2 à GPT-3, donc l'outil de génération automatique de contenu de OpenAI, où en fait, le gap entre les deux est réellement impressionnant. C'est-à-dire que la première fois que j'ai testé GPT-3, j'en suis pas revenu, donc moi en tant que ex-chercheur, sur la qualité narrative, linguistique de ce qui est produit. C'est-à-dire, on lui dit « produit un texte sur... la prochaine éclipse », le texte qui sort est vraiment parfaitement lisible, parfaitement organisé, parfaitement écrit, sans faute. Il y a plein d'erreurs quand même, il y a des générations où ça ne marche pas, mais souvent, très souvent, c'est des textes parfaitement écrits. Et alors ça a un côté, effectivement, en tant que chercheur, on dit « waouh, quand même, ils sont arrivés à un point qui est vraiment impressionnant ». Je pourrais revenir après dans l'autre atelier sur le « on utilise des méthodes différentes, donc nous on est sûr de ce qu'on produit ». Parce que c'est des méthodes différentes, mais en tout cas, on n'a pas cette capacité à parler de n'importe quoi très bien. Et puis quand on creuse un peu, et c'est là aussi qu'il y a quand même un problème dans ce qui est produit, c'est qu'on se rend compte que il parle très bien, mais il raconte n'importe quoi. Moi, j'avais fait un test, il y avait un prospect qui disait « Oui, mais regarde, GPT-3, ça ne me coûte rien quasiment à ce que tu me proposes. » Il dit « Oui. » Mais regarde, tu lui montres un appareil photo, tu lui dis l'appareil photo, il a tant de zoom, il a tant, etc. Tu lui fais générer. Et derrière, il te raconte n'importe quoi. Il va t'inventer des caractéristiques qui n'existent pas. Il va te donner des caractéristiques que tu n'as pas fournies et il les donne, elles sont fausses. Donc en fait, on a un outil qui écrit très bien, mais qui écrit n'importe quoi. Donc un de mes amis dit, c'est GPT-3, c'est un poète. Et ça correspond bien, c'est-à-dire, il écrit pour la beauté de l'écriture, il écrit pas pour... communiquer quelque chose. Enfin, en tout cas, pas pour communiquer une information, justement. On revient sur l'information. Et alors, il y a aussi un autre chercheur qui disait que GPT-3, il avait l'impression que c'était un de ses étudiants qui parle très bien et qui essaie de te bullshiter pour faire oublier qu'il n'a rien appris. Et ça correspond bien. Donc, on a aussi cette problématique que maintenant, on a des outils qui sont utilisés, comme GPT-3, qui permettent de parler de n'importe quoi. Mais ce que ça produit, on s'en fout, on fait du contenu qu'on va faire indexer par Google pour être référencé, il y aura les bons mots-clés, mais derrière, ce qu'il a raconté, c'est n'importe quoi. Donc il peut y avoir des choses fausses. Et il y a des gens qui s'en moquent totalement, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est des pièges à clics, on va appeler ça comme ça, et ils veulent juste que les gens viennent, et après, ils montent de la pub et ils gagnent de l'argent. Mais quand vous voulez vraiment donner un message, ce qui pose des problèmes éthiques, évidemment, hein, parce que les messages sont faux. Quand vous êtes une entreprise, vous avez une marque et vous voulez donner un message, vous ne savez pas ce que ça va ressortir. Donc derrière, il faut le relire. Donc du coup, ça ne coûte pas forcément beaucoup moins cher.
Et si c'est fait de façon massive aussi, c'est aussi compliqué de lutter contre ces contenus qui sont automatiquement produits. Et s'il faut peut-être une armée de personnes pour les vérifier, pour les fact-checker.
Alors oui, c'est la lutte contre le. Alors de toute façon, la lutte contre les fake news, on voit ce que ça donne. Hein. Tu parlais des fermes à contenu, c'est des humains, des milliers d'humains qui produisent des horreurs, des saloperies, désolé pour le terme, pour des raisons souvent géopolitiques. Le jour où ça viendra sur les marques, ça viendra aussi. On va taper sur l'autre marque et soi-disant c'est un utilisateur qui en parle. Ça va quand même être assez compliqué. La machine, je ne sais pas si elle apporte énormément de complexité supplémentaire. Elle apporte du volume en plus, à condition qu'elle soit bien dirigée aussi, ce qui n'est pas forcément toujours simple. Elle apporte du volume, donc c'est important. Et la détection n'est pas si simple que ça non plus. Arriver à avoir des machines qui arrivent à détecter que c'est notre machine qui a écrit,
c'est pas si simple. Finalement, à ce stade, est-ce que ça a encore une importance de savoir si c'est une machine qui l'a écrit, si le contenu est faux, de toute façon.
Vu ce qui se passe en ce moment, je ne suis pas certain.
Jean, je vous voyais opiner de la tête quand parlait Claude.
Oui, enfin, c'était surtout en écho à la question de l'éthique, finalement, puisque dans le cas d'Arnaud, comme dans le cas de Claude, ce que Claude vient de souligner là, ou encore une fois Arnaud tout à l'heure, c'est que sur le terrain de l'éthique, finalement, tout est remis entre les mains de l'humain. C'est-à-dire que c'est l'opposition entre ce qu'on fait de la philosophie, entre éthique des vertus et éthique conséquentialiste. Finalement, l'IA, elle est conséquentialiste. Si le moteur, L majuscule, si le moteur décide que l'origine du monde est une image pornographique, on va tous là être scandalisés. Il ne comprend rien à l'art. D'accord. Sauf que, de manière conséquentialiste, on pourrait dire que sur un plan éthique, il s'est trompé, mais que l'algorithme a permis d'évacuer des milliers, sinon des millions d'images pornographiques. Donc la conséquence était plutôt positive finalement. Mais dans tous les cas qui ont été donnés tout à l'heure, l'éthique à ce moment-là, elle vient de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, une éthique des vertus qui est une individuation de la volonté. Donc, c'est-à-dire que c'est l'individu, c'est l'agent qui exprime une intention. Sans cette intention, il n'y a pas d'éthique, parce qu'il ne faut pas compter sur l'éthique conséquentialiste de la machine pour rattraper un comportement non éthique de l'agent, et l'agent, en l'occurrence, qui est humain. Donc voilà, c'était sur la question éthique, finalement, c'est quasiment, à mon avis, aujourd'hui, sans solution.
Peut-être juste rapidement, hein, pour rebondir justement sur ce point Facebook avec la naissance du monde, le discours de Zuckerberg, c'est de dire en fait, c'est pas moi, c'est l'algo. Et on n'y peut rien, c'est l'algo, je ne suis pas responsable. Ça, clairement, ce n'est pas acceptable, en fait. La responsabilité est forcément dans les concepteurs et les utilisateurs. Un autre exemple aussi, quand on a reproché à Microsoft qui avait sorti un agent sur Twitter à qui on envoyait quelque chose et qui répondait des choses et qui apprenait au fur et à mesure à parler, au final, l'outil s'est mis à sortir des propos racistes, machistes aussi, enfin je ne sais plus quoi, enfin,
plein de choses, xénophobes,
voilà, il y avait de tout là-dedans. Et effectivement, Microsoft est responsable et du coup a dû enlever, et c'est à juste raison, il a dû l'enlever. Mais pour moi, les responsables, c'est ceux qui, pour s'amuser, ont appris au système des propos de ce type-là, qui ensuite sont diffusés. Il y a une responsabilité non seulement du concepteur, de la marque qu'il utilise, mais aussi de l'utilisateur. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Enfin, on le voit quand les gens se lâchent sur Twitter, tout le monde a une responsabilité là-dedans.
C'est un débat qu'il y a aussi avec les réseaux sociaux. Et c'est aussi une question d'échelle, finalement, cette histoire de responsabilité. Parce que quand ça se passe à une toute petite échelle, des propos xénophobes à l'échelle, par exemple, d'un repas de famille, qui n'est pas un repas de famille. Mais quand ça se passe sur une plateforme où ça devient très visible tout d'un coup, et peut-être que c'est à réfléchir aussi de cette manière-là. Est-ce que l'IA permet de faire des choses de façon plus industrielle, plus massive, donc d'avoir plus d'impact? Peut-être que ça se lie avec les deux lectures, hein, je ne sais pas, je pose la question, même si effectivement la machine est neutre en soi. Marie, vous alliez réagir.
Désolé, je monopolise, mais juste, il y a aussi des débats qui ont lieu en ce moment justement sur la responsabilité juridique des machines. Certains avocats aiment bien surfer là-dessus, ça leur fait de la pub aussi. Mais au-delà de la pub, il y a un concept qui n'est pas du tout innocent. C'est-à-dire, la machine ne peut pas être juridiquement responsable. Ce n'est pas possible. Si demain ma machine produit un texte qui a une vraie erreur avec des conséquences, je suis responsable. En tant qu'entreprise, je suis responsable. Ce ne sera jamais la machine. Jusqu'à peut-être un moment où peut-être qu'un jour ça arrivera, la machine a une conscience, et qu'on pourra prouver que la machine a une conscience, ok, là on pourra peut-être en reparler. Mais en attendant, la machine n'a aucune responsabilité juridique, forcément.
Une réaction sur ces grands débats philosophiques sur la responsabilité juridique de la machine, non?
On ne peut que partager.
Très bien. Merci Claude. Il y a deux autres aspects peut-être sur l'éthique qu'on peut aborder qui sont moins directement liés à l'activité de l'intelligence artificielle, mais à ce qu'elle... d'une part, il y a l'aspect écologique. Est-ce que finalement, c'est pas une débauche de dépenses d'énergie de consommer, de créer un texte avec une machine alors que finalement, on pourrait le faire avec un humain, peut-être que ça coûterait moins cher. Enfin, à voir.
Et le point de vue énergétique, ça coûterait plus cher.
L'autre partie, c'est en termes d'emploi, en fait, en termes d'économie, ce que détruit, et je le dis avec des mots qui sont volontairement un peu forts, mais ce que détruit comment, est-ce que ça détruit des emplois, l'IA? Voilà. Faut le dire.
Alors, à l'échelle globale, moi, je ne pourrais pas répondre, mais à ma petite échelle et l'échelle de l'agence de Source Initiale et Creative Leaf, ça a été plutôt créateur d'emplois que l'inverse.
Ça apporte du business aussi. Donc, mais
ça apporte du business et ça a créé effectivement aussi, je dirais, une rationalisation des contenus qui ont été créés en fait pour les différentes marques. parce qu'on on a réussi à mieux identifier ce qui fonctionnait ou ce qui fonctionnait pas pour une marque. Et donc, on leur a permis de recycler des contenus qui existaient déjà, de les réoptimiser. Donc, globalement, en fait, pour répondre sur les deux volets, sur le volet emploi, nous, on n'a pas de velléité à produire automatiquement des vidéos. Et donc, on a maintenu tous les emplois des vidéastes qui travaillent avec nous. Et sur le volet écologique, ça c'est assez amusant parce qu'effectivement on monitore énormément évidemment les ressources énergétiques nécessaires en fait au calcul, etc., pour faire tourner notre algo. Et là dernièrement on va scorer chacune des créas en fait qui va être diffusée par nos différents clients. On va être en mesure de pouvoir les scorer d'un point de vue green, de savoir quel a été en fait l'impact écologique de cette créa au regard de la diffusion qu'elle a pu avoir sur les différentes plateformes. Donc en fait, on va calculer en fonction du nombre de frames, de la durée d'une vidéo globalement, du nombre de fois où elle a été diffusée, quel a été l'impact écologique de cette vidéo-là. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'en fonction forcément de la taille des vidéos, en fonction des contenus, etc., on va avoir une ressource énergétique qui va être plus ou moins forte. Alors c'est évidemment en fait une estimation, mais c'est déjà aussi une première forme de sensibilisation, je pense, de nos clients sur le fait de dire ok, c'est là, je sais que je l'ai diffusé X milliers de fois avec une répète de temps. Il y a peut-être un moment donné, il faut que j'arrête de bastonner. Ça vaut peut-être le coup aussi d'un point de vue énergétique.
Alors, je peux que partager encore une fois. Et nous, en fait, on produit automatiquement de la vidéo, mais on vient se positionner en complément de. On ne remplacera jamais des créateurs de contenu. Et le mot créateur est important. On ne remplacera jamais ces personnes-là parce qu'il y a l'aspect créatif qui est là. Et nos systèmes, nos algos n'ont pas ce côté créatif. Au contraire, même. On a besoin de ces créateurs-là pour créer les templates de production, les canevas qui vont nous permettre de produire les vidéos. On a besoin de ces créateurs-là pour injecter ça dans le système et ensuite produire massivement du contenu. Finalement, on vient en complément, on vient se positionner à un endroit où il n'y avait pas grand monde, où il n'y avait pas grande solution aujourd'hui, et on vient proposer une nouvelle solution. Et on est aussi, du coup, comme je le disais tout à l'heure, très attentif à l'aspect écologique et à l'aspect coût de tout ça, coût écologique de tout ça, puisque de base, la majorité de nos contenus sont éphémères. Ils ont une durée de vie en général d'un mois. Imaginons un contenu publicitaire. De base, nous, ce qu'on envoie, on met un mois en durée de vie. Et ensuite, sauf si le client le demande, évidemment, mais ensuite, ces contenus-là ont vocation à disparaître. Ce qui fait que c'est inutile d'héberger des contenus qui, ad vitam aeternam, qui ne seront plus regardés au bout de 2, 3, 4, 5 mois. Donc on est aussi très attentif à ça. Donc on est attentif sur plusieurs points, sur la gestion des données et leur volume, vraiment les datas d'entrée, et leur volume aussi est important, et les données de sortie, donc les vidéos générées, en faisant en sorte qu'elles ne restent pas trop longtemps sur les réseaux.
Jean, peut-être rebondir à ça. On accueille Emmanuel Alix, donc de l'équipe. Merci, c'est intéressant parce que peut-être que ce qui manquait dans le panel, c'était un média qui explique comment ils utilisent l'IA pour produire des contenus. Et peut-être que tu as quelque chose à nous raconter là-dessus. Bam. On parle souvent de contenu à faible valeur ajoutée, de production pour le journaliste. L'exemple, c'est les résultats sportifs, c'est ça, le week-end ?
C'est comme ça. Donc, par exemple, les programmes télé, la valeur ajoutée de raconter à quelle heure et sur quelle chaîne doit se dérouler un match. Évidemment, on a ces données-là en base de données. Et comment on arrive à générer des articles qui ne se ressemblent pas tous, un style qui peut s'apparenter à un journaliste, à un travail fait par un journaliste, mais qui nous permet notamment d'aller sur les requêtes Google et bien se positionner en SEO. C'est pas des articles qu'on va mettre en avant sur la page d'accueil du site ou qu'on va mettre particulièrement en avant, mais c'est néanmoins ce qu'on appelle nous des articles serviciels qu'on propose. Donc des données en base de données et qu'après on mouline pour en générer des articles et qui permettent de créer du trafic et de l'audience et du service pour l'utilisateur.
Genre Real Madrid, Liverpool, quelle heure, quel match, quel jour, quelle chaîne.
Exactement. Et bon, après maintenant pour tous les médias font ça, donc ce qui est un peu embouteillé maintenant sur Google, mais typiquement c'est ce genre de valeur ajoutée là. Ou sinon je prends un autre exemple, les résultats de tennis. Il y a énormément de matchs de tennis. On va pas faire un compte rendu par match. On va pas, voilà. Pourtant, on a des données en base de données. On sait, voilà, les victoires, les sets, les breaks, les aces. Enfin, voilà, on a beaucoup de données. Donc, on arrive à re-raconter un match en 500 signes. Pas besoin de faire beaucoup plus. Voilà, on arrive à re-raconter un match et ça permet aux journalistes d'aller travailler plutôt sur pourquoi, Alcaraz a gagné l'ATP 1000 de Madrid, pourquoi c'est un futur champion, s'il n'est pas déjà, plutôt que de raconter un match qui
est... Ça, c'est la dimension vraiment traitement automatique de contenu à faible valeur ajoutée, ouais, pour les journalistes et, ouais, utile pour
faible valeur ajoutée pour les journalistes, très utile pour les lecteurs. Les lecteurs ont besoin de ces éléments-là. Néanmoins, on préfère que le journaliste, oui, en effet, se concentre sur... sur, voilà, ce qui, bah, son travail d'enquête, de reportage, d'appeler des gens.
Et ça fait longtemps que vous êtes, que vous faites ça, du coup, l'équipe?
Ces contenus, non, ça fait, on les a, les premiers, ça fait 8 mois sur toute la partie programme télé. Et là, on attaque les autres sports, notamment les sports américains qui se déroulent la nuit. Voilà, on n'a personne la nuit pour les traiter. Ça nous permet aussi d'avoir le matin des contenus frais. Voilà, donc c'est ce genre de sujet sur lequel on travaille.
Et pour se projeter un peu dans ça, de l'autre côté, l'hyper-personnalisation des contenus, parce qu'il y a le côté on traite de façon industrielle des choses à faible valeur ajoutée, et de l'autre côté, quand on fait le pont vers pour un individu en particulier qui regarde tel site à tel moment, qui a regardé tel autre site par ailleurs, comment est-ce qu'on va lui générer une contenu en temps, une vidéo en temps réel? Vous nous racontez un peu comment ça se passe dans la machine quand on soulève le capot?
Ah, ça peut se passer de plein de manières. Alors, le contenu en temps réel, quand on arrive sur un site, aujourd'hui... Alors, encore une fois, la question du temps réel se pose. C'est quoi le temps réel? C'est un contenu qui arrive au bout de quelques secondes ou... Enfin, voilà, c'est une vraie question, parce que ça, c'est là où les puissances de calcul interviennent. Mais après, pour nous, mais pour d'autres, hein, on a des concurrents aussi... C'est aujourd'hui très simple, à partir du moment où on a les data en entrée, d'hyper personnaliser un contenu. C'est vraiment extrêmement simple. Tout à l'heure, je parlais de vidéos personnalisées. Un exemple que je peux citer, c'est avec West France, où on a envoyé en 2 jours 150 000 vidéos personnalisées à 150 000 de leurs contacts. Et les vidéos étaient, il y avait le prénom de la personne dedans, mais il y avait pas que ça qui variait d'une vidéo à l'autre. Le contenu et le montage variaient en fonction des centres d'intérêt que West France connaissait sur les destinataires. Alors là, on était sur une base de données de clients de West France, donc voilà. Encore une fois, là où il y avait une éthique, c'est important, c'est que nous, de notre côté, on ne savait pas à qui on envoyait les vidéos. On était incapable d'identifier la personne et de la reconnaître sur nos serveurs. C'est West France qui refaisait le lien après.
Mais genre, ça donne quoi comme type de recommandation personnalisée?
Eh ben là, par exemple, imaginons que vous êtes fan de, on parlait de sport, fan de tennis. Vous recevez une vidéo avec votre prénom dedans et on vous disait, bah, vous êtes fan de tennis, nous aussi, on vous propose de venir assister à l'Open de Rennes, parce que je suis de Rennes. On vous propose de venir gagner des places pour assister à l'Open de Rennes, et puis ça peut être ce type de contenu-là. Si le voisin est fan de foot, eh bien, ce sera pour venir voir le Stade Rennais. Ça peut être ce genre de choses. C'était pas cet exemple-là précisément avec West France, mais ça peut être ce genre de choses. Donc, on peut faire du publicitaire, mais aussi de l'information. On peut vraiment tout imaginer. À partir du moment où on a de la data et qu'on sait calculer des vidéos très rapidement, c'est très facile à faire.
Bah, allons-y, projetons-nous, ça donnerait quoi en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme contenu informationnel? C'est quoi les opportunités aujourd'hui? On voit pas ce qui est...
Eh bien, on parlait... Alors, si on reprend l'exemple du sport, un exemple qui pourrait être intéressant, c'est... imaginons que je sois fan de ping-pong. Non, de tennis, c'est peut-être mieux parce qu'il y a plus de, résultats le week-end. Eh bien, tous les lundis, je pourrais avoir un petit JT. Mais encore une fois, sans le... C'est juste les résultats, vraiment, il n'y a pas d'analyse derrière, il n'y a pas de... Mais le petit JT qui me fait plaisir pour avoir mes résultats du week-end sur... imaginons que j'ai sélectionné tennis, voile et foot, et ben j'aurai mon petit JT avec juste mes résultats de tennis, de voile et de foot. Et on peut imaginer ça à l'infini, quoi, on peut dupliquer ça à l'infini.
Ça sert à rien.
Ouais, après, là où il faut faire attention, c'est que... toujours pareil, c'est que les médias, on doit aussi faire découvrir des choses à nos lecteurs, et que de toujours être dans la personnalisation et lui dire, table tennis, je vais te donner ça, mais en fait, non, on préfère te raconter que Martin Fourcade est champion olympique de biathlon. On pense que ça a plus de valeur, et le métier de média, c'est aussi de hiérarchiser l'information, hiérarchiser les sports, et l'hyper-personnalisation, ça veut dire que tu vois plus jamais, parce que l'algorithme a décidé que tu n'étais pas fan de tennis de table, il va jamais te parler de tennis de table. Donc, il y a aussi cet enjeu-là qui est, je pense, très compliqué, et c'est pour ça que les médias ont beaucoup de mal à aller là-dessus, c'est que faut qu'on arrive à trouver un mix entre la hiérarchie de l'information, qui est notre métier principal, sinon, entre guillemets, il y a des agences et il y a des fils d'infos, les gens ils pourraient se nourrir de ça, et de comment on arrive à trouver ce... non, là, c'est plus important, on va vous parler de tennis de table, tout le monde se fout du tennis de table, globalement, d'habitude, mais nous, on a décidé, l'équipe, qu'aujourd'hui, c'était important de nous en parler pour telle ou telle raison. Donc c'est ça la difficulté de la... Bon, aujourd'hui, en tout cas, de la personnalisation pour apporter quelque chose de la valeur. Sinon on n'est qu'un débit. Et y a pas
c'est,
de...
un, c'est un beau mot de conclusion. Comment est-ce qu'on intègre l'IA et la production de contenu dans la mission des médias pour réussir à trouver le bon équilibre là-dessus? Merci à tous les cinq, du coup, d'avoir joué au jeu des questions au poids bâton rompu.